est midi en temps universel, 13h à Paris, c'est RFI Midi, une heure d'information, avec d'abord le journal.
Diane Berger.
Trois nouveaux otages du Hamas libérés ce matin, Keith Siegel, Yarden Bibas et Ofer Calderon. Nous serons dans un instant avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Muriel Paradon. Aux États-Unis, Donald Trump doit signer aujourd'hui le décret qui impose des droits de douane de 25% pour les importations mexicaines et canadiennes, 10% pour les produits chinois. Pékin prépare sa riposte, on y reviendra dans le journal, puis vers 13h15 avec notre invité. La Birmanie, 4 ans exactement après le coup d'État, vous l'entendrez, la junte n'a jamais semblé aussi faible, confrontée à des groupes armés rebelles. Et puis, un pas en avant pour la préservation des fonds marins au Portugal. Les députés ont voté un moratoire contre la prospection minière dans les eaux territoriales portugaises.
RFI Midi.
À suivre aussi le journal des sports de Christophe Diremzian dans 10 minutes. Et puis une exposition dont vous êtes le héros au Festival d'Angoulême. Les visiteurs sont appelés à se mettre dans la peau d'un auteur de bande dessinée. Ensuite, à 12h30, temps universel, rendez-vous avec Nicolas Sûr pour Afrique Midi.
RFI à Paris, 89 FM.
Le soulagement, place des otages à Tel Aviv. Le Hamas a libéré ce matin 3 nouveaux captifs retenus à Gaza depuis l'attaque terroriste du 7 octobre. Ils ont été échangés contre 183 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Les otages ont donc pu rejoindre leurs familles. Et contrairement à jeudi dernier, les libérations ce matin ont eu lieu dans le calme. On retrouve en direct de Tel Aviv Muriel Paradon. Bonjour.
Bonjour.
Muriel, des centaines de personnes ont regardé sur un écran géant ces libérations, notamment celle du franco-israélien Ofer Calderon.
Oui, on a pu voir deux images différentes d'Ofer Calderon à Gaza, visage fermé, se prêtant à la mise en scène du Hamas, obligé de monter sur un podium entouré d'hommes armés et cagoulés avant d'être remis à la Croix-Rouge. Et puis Ofer Calderon arrivé sur le sol israélien, le poing levé, criant sa joie, apparemment en bonne santé. Il a pu rejoindre sa famille. Des centaines de personnes ont suivi sa libération devant un écran géant comme Michael.
Je voulais partager l'émotion intense que tous ces gens autour de nous ressentent avec la libération de Calderon. Je pense que cette horreur ne mérite pas les klaxons, les cris de joie, etc. qu'on voit, parce qu'on a trop tendance à oublier l'horreur qui est derrière tout ça. Mais c'est vrai que la libération de plusieurs otages rend tout le monde heureux. Donc mélange de très très grande détresse et de très grand bonheur.
Des sentiments mitigés car Ofer Calderon et un deuxième otage, Keith Siegel, ont pu rejoindre leur famille, enfants ou épouses, également enlevés le 7 octobre et libérés lors d'une première trêve. Mais pour le troisième otage, Yarden Bibas, la situation est beaucoup plus tragique. Sa femme et ses deux enfants ne sont pas sortis avec lui de Gaza aujourd'hui. Ils ont été donnés pour morts par le Hamas, tués dans un bombardement israélien au début de la guerre. Israël n'a pas confirmé. Et beaucoup de monde ici s'accroche à l'espoir de les revoir un jour vivants.
Merci beaucoup Muriel Paradon en direct de Tel Aviv avec Nicolas Benita pour les moyens techniques. La trêve en vigueur depuis 2 semaines permet aussi, tout au sud de Gaza, la réouverture du terminal de Rafah pour la première fois depuis le mois de mai 2024. Le Hamas annonce que 50 malades doivent le traverser aujourd'hui pour être évacués vers l'Égypte où ils seront pris en charge. En Syrie maintenant, 10 personnes sont mortes dans un village alaouite, la minorité de l'ancien président Bachar al-Assad. Des personnes tuées par des hommes armés sunnites selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les forces de sécurité recherchent les assaillants. Un événement révélateur des tensions intercommunautaires dans le pays, malgré les promesses répétées des nouvelles autorités au pouvoir à Damas. Donald Trump doit mettre ses menaces à exécution aujourd'hui. Le président des États-Unis doit signer dans quelques heures le décret qui impose une augmentation des droits de douane de 25% pour les produits venus de ses voisins canadiens et mexicains, de 10% pour les importations en provenance de la Chine. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour Diane.
Pékin n'a pas encore officiellement réagi, mais le pays prépare sa réponse depuis plusieurs mois.
Oui, d'abord parce que ça n'est pas une surprise. Le premier mandat de Donald Trump avait déjà été marqué par des tensions commerciales commerciale entre les deux pays, tensions qui d'ailleurs ont largement perduré sous Joe Biden. Les entreprises chinoises ont donc déjà relocalisé une partie de leur production au Vietnam ou au Cambodge, par exemple, pour contourner ces nouvelles taxes. Et en attendant de futures et inévitables négociations, Pékin se présente aux yeux du monde comme le défenseur du multilatéralisme. Écoutez, Ding Zhexiang, le vice-premier ministre chinois, c'était il y a une dizaine de jours au Forum économique mondial de Davos.
Nous sommes à l'aube d'une nouvelle guerre commerciale. Bien sûr, la mondialisation peut provoquer des tensions, mais ces tensions ne peuvent être résolues qu'en faisant la promotion du multilatéralisme. Le protectionnisme ne mène nulle part et les guerres commerciales n'ont pas de vainqueur.
Ah, ce qui ne veut pas dire que Pékin entend rester les bras croisés. Les représailles chinoises pourraient à nouveau cibler les producteurs américains de soja, très dépendants du marché chinois. Ou pourquoi pas Tesla, l'entreprise de voitures électriques d'Elon Musk, un très proche allié de Donald Trump. Et puis si ces nouvelles taxes américaines touchent des produits jusque-là épargnés comme l'électronique ou bien les iPhones, eh bien l'inflation pourrait repartir à la hausse aux États-Unis, transformant les consommateurs américains en alliés objectifs de Pékin.
Merci beaucoup Nathanaël Vitt. Les effets de ces nouveaux droits de douane, on y reviendra dans une dizaine de minutes. L'économiste Julien Marcilly sera l'invité de RFI Midi. L'agence sanitaire de l'Union africaine alerte sur la situation à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle constitue, je cite, une véritable urgence de santé publique. Les déplacements de population liés aux affrontements entre l'armée et les hommes du M23 pourraient propager des maladies, selon l'agence, dans un secteur déjà touché, notamment par le Mpox. Nous reviendrons évidemment sur la situation en République démocratique du Congo dans une demi-heure dans Afrique Midi. Il est 18h36 à Rangoon, en Birmanie. Le pays entre dans sa cinquième année de guerre. Après le coup d'État du 1er février 2021, la junte militaire a sévèrement réprimé les manifestations, arrêté 20 000 personnes. Selon l'ONU, des milliers d'habitants ont été tués. Depuis, la révolte s'est transformée en une guerre civile entre l'armée et la rébellion pro-démocratie menée par différents groupes issus des minorités ethniques. Malgré le soutien important de la Chine, la junte qui tient encore le centre du pays ne cesse de reculer, Nicolas Roca.
Les grands centres urbains et quelques poches rurales dans les régions frontalières. Voilà à quoi ressemblent les territoires maîtrisés par l'armée birmane. Une large part du pays reste instable et en proie à d'intenses combats. Cet été, les rebelles ont conquis Lachio, une ville stratégique proche de la frontière avec la Chine. Elle abrite un des 14 commandements militaires régionaux du pays, le premier à tomber aux mains des rebelles. En tout, 95 villes seraient désormais sous contrôle de la résistance, selon le Myanmar Peace Monitor, et ce malgré des bombardements intense de l'armée, notamment sur des civils. À l'ouverture de la cinquième année de guerre, la junte n'a jamais semblé aussi faible. Elle a prolongé ce vendredi l'état d'urgence, repoussant de nouveau les élections. Les dernières remontent au scrutin législatif largement remporté par le parti d'Aung San Suu Kyi en 2020, quelques mois avant le coup d'État. Le rôle joué par la Chine sera décisif dans les prochains mois. Pékin soutient la junte à qui elle continue de livrer des armes et parraine des négociations motivées par ses intérêts économiques et son désir de stabilité à sa frontière.
Nicolas Roca. En Serbie, leur manifestation doit commencer dans 2 heures. Des milliers d'étudiants ont commencé à se réunir à Novi Sad 3 mois après l'effondrement du toit d'une gare de la ville. Un drame qui a causé la mort de 15 personnes et provoqué un vaste mouvement de protestation contre le pouvoir, l'un des plus grands de l'histoire récente de la Serbie. C'est une première en Europe. Les députés portugais adoptent un moratoire qui interdit la prospection minière des fonds marins jusqu'en 2050. Une industrie naissante pour aller chercher des métaux rares au fond de l'eau, mais qui est très contestée par les écologistes en raison des risques pour la biodiversité. Marilyn Darcy.
Nous sommes en train de faire l'histoire. 3 ONG environnementales portugaises se sont félicitées de la décision de l'Assemblée nationale de reporter à 2050 toute décision concernant l'exploitation des fonds marins portugais. Depuis longtemps, les associations alertaient sur l'impact possible des mines sur des écosystème encore très mal connu. Le gouvernement de droite s'était rangé à cet avis, estimant qu'il s'agissait d'une plongée dans l'inconnu. Le consensus a été assez large entre les députés qui le soutiennent et la gauche, et un texte de loi va être adopté prochainement. Ce sera le premier du genre en Europe, car si une trentaine de pays dans le monde envisagent eux aussi d'adopter un moratoire, seules les îles Palaos et Fidji dans le Pacifique ont interdit l'exploitation minière des fonds marins. Le Portugal est, c'est vrai, particulièrement concerné. Il possède une vaste zone maritime exclusive qui englobe entre autres l'archipel des Açores dans l'Atlantique. Et c'est en bordure de ces îles, entre 4 et 6 000 mètres de profondeur, que des projets sont à l'étude, financés par la France, la Pologne et la Russie. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
L'ancien président allemand Horst Köhler est mort aujourd'hui à l'âge de 81 ans. Il avait occupé ce poste de 2004 à 2010, une fonction essentiellement symbolique et représentative en Allemagne. L'homme politique et économiste avait aussi dirigé le FMI, le Fonds monétaire international.
RFI Midi.
Il est 12h10 en temps universel. Dans quelques minutes, on va revenir sur l'impact des taxes douanières de Donald Trump sur l'économie mondiale. On s'interrogera aussi sur le rôle de l'IA dans le monde des transports. On vous emmènera également au Festival d'Angoulême, mais d'abord, les sports. Le journal des sports avec Christophe Diremzian. Bonjour Christophe.
Non.
Football, la suite de la 20e journée de Ligue 1 avec notamment le déplacement du leader, le Paris Saint-Germain à Brest. Premier épisode d'une trilogie étalée sur tout le mois de février.
Chapitre 1, le championnat où le PSG caracole en tête et les Brestois tentent de s'accrocher au prochain wagon pour l'Europe. L'Europe qui sera le cadre des deux équipes pour les chapitres 2 et 3 puisqu'elles se retrouveront en barrage de Ligue des Champions les 11 et 19 février. Le duel de cet après-midi peut donc servir de round d'observation. Pas d'avantage, estime l'entraîneur parisien Luis Enrique, pas forcément d'accord avec l'idée d'avoir bénéficié d'un tirage au sort favorable.
Brest est une grande équipe, très bien rodée, qui la saison dernière jouait à un niveau exceptionnel. Cette saison, ils sont en train d'améliorer leurs performances et sont dans une bonne dynamique. C'est une équipe qui défend très bien, très complexe, et c'est pour ça qu'elle est là où elle est. Je le répète, la Ligue des Champions est totalement différente. En deux matchs, la moindre erreur peut vous coûter cher, et c'est ce qui sera décisif dans cette compétition. En Ligue 1, le scénario est différent, et ce samedi, nous jouons en championnat. Nous voulons continuer à aborder chaque match de la même manière, en essayant de le gagner, et c'est l'objectif du jour.
Luis Enrique, Brest-PSG, 16h, temps universel, deux autres match au programme. Monaco, troisième, accueille Auxerre à 18h TU et à 20h05 TU, Lille-Saint-Etienne.
Le rugby maintenant, soirée d'ouverture presque parfaite pour l'équipe de France dans le tournoi des Six Nations. Les Bleus ont écrasé le pays de Galles 43 à 0.
Des Gallois, surnommés, on le rappelle, le 15 du poireau, dégustés avec la sauce vinaigrette de rigueur sur la pelouse du Stade de France par les joueurs de Fabien Galthié. 7 essais, bonus offensif en poche du Grand Bleu, mais tout de même taché de rouge. Cette expulsion du demi d'ouverture Romain Tamac à 10 minutes de la fin pour un coup d'épaule dans la tête de son vis-à-vis Ben Thomas. Seule fausse note dans une prestation globalement bien appréciée par le troisième ligne Alexandre Roumat au micro de Babacar Diarra.
Pour un premier match, c'est très satisfaisant. Après, on a vu que l'équipe galloise nous a mis beaucoup de pression dans les rucks et notamment aussi sur les ballons hauts, et c'est deux secteurs où je pense on a été mis par moments en difficulté sur le match. Donc voilà, on est bien conscient que c'est pas une copie parfaite. Je pense qu'elle est très positive, mais face au match qui nous attend la semaine prochaine, je pense que c'est d'autant plus de secteurs qui seront primordiaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a ce sentiment, je pense, d'insatisfaction. Et aussi le carton rouge malheureux de Romain qui entache, on va dire, une belle soirée.
Romain Tamac, d'ores et déjà privé samedi prochain du Crunch, le duel avec l'Angleterre qui lance son tournoi de son côté en Irlande tout à l'heure à 16h45, temps universel. De son côté, l'Écosse accueille l'Italie à 14h15, TU.
Et puis c'est l'un des grands rendez-vous de la jeune histoire du MMA français et il a lieu ce soir à Riyad.
Oui, c'est un face-à-face entre Nassourdine Imavov, 28 ans, figure montante de la discipline, et une légende, le néo-zélandais d'origine nigériane, Israël Adesanya, ancien champion en moins de 84 kilos. Imavov est actuellement 5e du classement de sa catégorie à l'UFC. Gagner ce combat lui ouvrira sans doute la voie vers la conquête d'un titre et accessoirement remonter la cote des Français peu en réussite ces derniers mois après les échecs de Cyril Gane face à Francine Ngannou et John Jones, puis de Benoît Saint-Denis battu par Dustin Poirier. Des défaites qui n'entachent pas leur crédibilité, tempère Nassourdine Imavov.
Si on prend Cyril Gane contre Francis, ça s'est joué vraiment pas grand chose, ça peut aller deux sens. Ça prouve déjà qu'il y a le niveau pour la ceinture. Puis là, il a gagné la ceinture intérimaire. Et pour ce qui concerne Benoît, c'est des choses qui arrivent. Peu importe qui t'en face, qui cogne, c'est des petits gants et il suffit d'une seconde d'inattention, tu prends un mauvais coup et c'est fini. Donc non, je pense que mentalement, on est là. On est prêt, on sait ce qu'on vaut. Et puis vous le voyez, chaque UFC, les combattants français, ils sont là.
Les propos recueillis par Sofiane Amazian, Nassourdine Imavov face à Israël Adesanya, c'est à suivre pas avant 19h, temps universel.
Merci beaucoup Christophe Diremzian.
RFI Midi. Diane Berger.
Donald Trump l'a assuré, la Chine, le Canada et le Mexique ne peuvent rien faire pour empêcher l'entrée en vigueur de ces droits de douane. Il doit signer le décret aujourd'hui. Une surtaxe de 25% sur les importations aux États-Unis depuis le Canada et le Mexique, 10% pour les produits venus de Chine. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Julien Marcilly, chef économiste au cabinet de conseil Global Sovereign Advisory, destiné aux États et aux entreprises publiques. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Mais d'abord, direction le Canada, les entreprises exportatrices s'interrogent sur leur avenir. C'est un reportage de Pascal Guéricola.
Notre marché est à 93% aux États-Unis.
Boss Atlas, l'usine de poutres d'acier de Nicolas Blais, se situe seulement à une heure de la frontière américaine. Dès les premières annonces de Donald Trump sur la possibilité de droits douaniers, l'entrepreneur a mis les bouchées doubles pour expédier le plus de charpentes métalliques possible chez ses clients du Sud.
Tout ce qu'on a envoyé avant minuit, bien, ultimement, on n'aura pas de tarif là-dessus.
Confronté à de possibles tarifs de 25 % sur ses ventes, l'entrepreneur compte sur la fidélité de ses clients américains.
On a quand même un produit qui est très abordable à cause du taux de change. On a une proximité aussi avec eux depuis 15 ans, 20 ans qu'on est là. Donc, ils veulent entretenir les relations pour nous conserver comme étant des sous-traitants pour eux. Ils sont prêts à assumer les tarifs. Mais il y a tout de même un 50 % de risque avec les autres clients qui ne veulent pas payer ces tarifs-là.
Nicolas Blais espère que le Canada va pouvoir négocier des tarifs à la baisse avec son puissant voisin.
Actuellement, on n'est pas en mode urgence. On croit que c'est réellement un levier de négociation. On a vécu des crises économiques par le passé. On a vécu des tarifs en 2019 de l'ordre de 10 % pendant 9 mois. Et finalement, ils ont été retirés. Ça nous a été remboursé. On croit vraiment fermement que c'est la même chose qui va se passer actuellement. D'où moins on l'espère.
À 80 km de là, un autre entrepreneur vit lui aussi avec les conséquences des tarifs douaniers. Julien Veilleux, de Rotobec, fabrique de grandes pinces mécaniques dans une usine au Québec et dans deux autres côté américain. Il y a quelques mois, il a décidé de déménager une partie de sa production québécoise.
Toutes mes pinces forestières étaient faites à Sainte-Justine, puis ça va être délocalisé aux États-Unis parce que 100% de ce chiffre d'affaires-là est américain. Mais si les tarifs continuent, bien là, il faudra continuer le projet de délocalisation. Et c'est malheureusement là-dessus que l'on travaille présentement. Pour le Canada, c'est pas des bonnes nouvelles parce que moi, j'avais quand même de la place à faire de la croissance au Canada. Je vais être obligé de la faire aux États-Unis.
Face à l'imposition de ces droits douaniers, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, se veut rassurant.
Nous allons aussi réagir. Notre réponse est prête. Une réponse déterminée, énergique, mais raisonnable et immédiate. Nous allons veiller sur les Canadiens, sur les propriétaires d'entreprises et les gens à travers le monde qui considèrent le Canada comme un partenaire clé.
On devrait savoir d'ici peu comment le Canada va mener la guerre commerciale qui s'amorce avec un pays où sont envoyés 75% de ses exportations. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Pour approfondir cette question, nous sommes donc en ligne avec l'économiste Julien Marcilly. Monsieur Marcilly, on l'a entendu dans le reportage de Pascal Guéricola au Québec, il y a de vives inquiétudes. Quelles vont être les conséquences de ces taxes douanières sur les pays ciblés ?
Oui, en effet. Mais tout d'abord, c'est vrai que cette mesure n'est pas une surprise. Le protectionnisme commercial et en particulier les droits de douane font partie des grandes lignes directrices de Donald Trump. Hein. Avant même qu'il entre en politique, dès les années 1980, il ciblait à cette époque le Japon et disait que les États-Unis devaient se protéger. Ensuite, pendant son premier mandat, il a déjà illustré cette doctrine en prenant des mesures. Mais c'est vrai que là, à peine 10 jours après son entrée en fonction, il est sur le point d'en prendre de nouvelles très fortes, hein, puisque ça concerne donc les trois premiers partenaires commerciaux des États-Unis, donc Canada, Mexique et Chine, qui exportent chacun d'entre eux entre 400 et 500 milliards de dollars vers les États-Unis, donc à peu près un peu moins de 1 500 milliards, ce qui est quasiment la moitié des importations totales américaines.
Ouais, et qu'est-ce qu'il essaye de donc, faire justement avec ces taxes douanières très fortes ? Qu'est-ce qu'il essaye de provoquer ?
Ben son objectif est connu et affiché depuis longtemps. Il espère convaincre des entreprises étrangères non plus d'exporter vers les États-Unis, mais plutôt de s'y implanter. Ceci dit, ces décisions d'investissement et de délocalisation prennent du temps Et en attendant, l'effet le plus certain et le plus probable, en tout cas à court terme, c'est que ces droits de douane vont augmenter les prix à l'exportation de ces pays-là et donc les prix à l'importation pour les États-Unis. Et comme ça concerne désormais une grande part des importations, mais on peut penser que dans les mois à venir, l'inflation d'ores et déjà va augmenter aux États-Unis, peut-être de l'ordre de 1,5 point, voire même de 1 point. Et ça aura évidemment aussi des conséquences négatives sur ces trois pays ciblés. Puisque ce sont, en tout cas pour le Canada et le Mexique, les États-Unis sont de loin le premier débouché commercial.
Est-ce que les conséquences vont être comparables entre ce qui va arriver au Mexique et au Canada et ce qui va se passer en Chine ? Le montant n'est pas le même et ce n'est pas non plus le même rapport avec les États-Unis.
Le montant n'est pas le même, c'est vrai. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler ce qui avait été fait pendant son premier mandat. C'est-à-dire qu'on se rappelle bien qu'à l'époque, Donald Trump ciblait beaucoup plus la Chine que les autres. Et le fait est que, si on s'en tient à sa doctrine, en fait, de son point de vue, il a remarqué que le déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine s'était en partie résorbé depuis cette époque-là. Mais ce qui le gêne plus aujourd'hui, c'est de voir que dans le même temps, le déficit commercial américain vis-à-vis d'autres pays, et en particulier le Mexique, le Canada aussi, et puis d'autres pays, a augmenté. Donc, dit autrement, il a remarqué que, il y avait des exportations qui auparavant allaient directement de Chine vers les États-Unis, qui désormais passaient par des pays tiers, des pays tampons, comme le Mexique. D'où sa volonté, cette fois, de dire je vais non plus cibler uniquement la Chine, mais tous les pays, en tout cas tous mes principaux partenaires commerciaux, de manière à faire passer le message suivant. La dernière fois, je vous ai empêché de rentrer par la porte, mais vous êtes passé par la fenêtre. Cette fois-ci, je ferme tous les côtés.
Oui, on ferme toutes les fenêtres. Et alors, on l'entendait dans le reportage de Pascal Guéricola, le Canada prépare une réponse. Si les pays visés ripostent, ils risquent tout de même de rentrer dans une guerre commerciale très coûteuse. Est-ce qu'ils sont pris au piège ? Qu'est-ce qu'il leur reste comme marge de manœuvre ?
Elles sont faibles pour ces deux pays-là, puisque, comme nous le disions, ils sont très tributaires de l'économie américaine. Ceci dit, des marges de manœuvre existent quand même. Par exemple, du côté du Mexique, on peut penser que les autorités auront intérêt à donner des gages à la nouvelle administration américaine en matière notamment d'importation chinoise. C'est-à-dire que le gouvernement mexicain pourrait dire aux Américains, écoutez, je vais faire de mon mieux pour que nos entreprises mexicaines importent un peu moins de Chine. Une autre marge de manœuvre possible concerne le secteur de l'énergie. On sait que le Mexique produit encore du pétrole. Or, c'est aussi une des marottes de Donald Trump et de son administration. Et donc, on pourrait imaginer aussi des compromis possibles dans ce domaine-là, avec un accès plus facilité pour les entreprises américaines au marché énergétique mexicain, par exemple. Mais ceci dit, les marges de manœuvre restent assez faibles, c'est vrai.
Mais donc, en quelques mots, ces taxes douanières qui vont être imposées, finalement, c'est aussi l'ouverture d'un tout un champ de négociation.
Complètement. Et c'est pour ça que, finalement, au-delà de ces mesures en tant que telles, le principal problème pour les entreprises, mais à la fois mexicaines, canadiennes, chinoises, américaines et demain européennes, c'est sans doute ce climat d'incertitude. C'est-à-dire que la mesure en tant que telle pèse sur la croissance, mais le climat d'incertitude qui y est associé, il pèse également, puisque ce n'est pas propice à l'investissement pour les entreprises.
Merci beaucoup, Julien Marcy. Je le rappelle, vous êtes chef économiste au cabinet de conseil Global Sovereign Advisory.
24, 32, 58 au 24.
RFI à Sambava, 96 FM.
Il est 12h23 en temps universel, l'heure de la chronique transport de RFI. Et une question aujourd'hui, quel rôle peut jouer dans nos transports l'intelligence artificielle ? Le philosophe et ancien ministre français Luc Ferry publie « L'IA, grand remplacement ou complémentarité » aux éditions de l'Observatoire. Il répond à Marina Mielcharek. Luc Ferry, bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler de transport et intelligence artificielle, donc IA. L'intelligence artificielle, dans quel domaine, dans le monde du transport, va-t-elle révolutionner le monde de demain ?
Il y en a deux qui sont évidents, mais qui sont très importants. C'est d'abord la voiture autonome, qui est pilotée par l'IA. Moi, je l'ai essayé dans Paris, c'est pas une blague, avec les lasers, avec les capteurs, etc. 4,5 km dans Paris, sans toucher une seule fois le volant. Par exemple, la plus évidente après la voiture autonome, c'est la régulation du trafic. Waze, l'application israélienne qui a été rachetée par Google, c'est un GPS. Donc, quelquefois, Waze ne vous recommande pas le meilleur trajet, le plus rapide. Et donc, on dit, ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se trompe, etc. Non. Il partage la circulation pour éviter les embouteillages. Donc, c'est déjà une intelligence artificielle très performante. Du point de vue écologique, c'est beaucoup moins polluant que des bouchons. Donc, on pourrait faire des villes 1000 fois plus agréables si on organisait la circulation dans les villes avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et puis, il y aura aussi d'autres applications dans l'industrie du transport.
Mais avec quoi? Avec des matériaux? Des nouveaux matériaux?
Avec les jumeaux numériques, beaucoup. Vous pouvez, par exemple, faire un jumeau numérique d'une carrosserie et puis la tester, ou le jumeau numérique, par exemple, d'un moteur et puis le tester. Ce sera exactement le même objet que l'objet réel, mais en 3D, en virtuel, mais avec lequel vous pourrez jouer, si je puis dire. Vous pourrez tout faire, vous pourrez le modifier, vous pouvez travailler dessus. Par exemple, sur les moteurs d'avion, sur les réacteurs, les gros moteurs d'avion, on fabrique des jumeaux numériques, ou sur les carlingues des avions, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec, tester la résistance des matériaux, tester la fluidité de l'air qui passe dessus, etc. Enfin,
est-ce que vous pensez qu'avec des nouvelles énergies qui arrivent en Afrique, l'intelligence artificielle pourra aider des jeunes entrepreneurs africains à faire des véhicules innovants qui n'existent pas encore?
Qui n'existent pas encore, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on peut développer les voitures électriques, mais il faut aider l'Afrique pour ça, parce que c'est quand même très cher au départ, c'est des investissements qui sont très chers. Mais dans le domaine de l'agriculture, tout ce qui est ensemencement, tout ce qui est phytosanitaire, etc., et intrants et phytosanitaire, tout ça, c'est quand même répandu par des machines dont on aurait évidemment grand intérêt à ce qu'elles soient hybrides ou électriques le jour où on aura des productions d'électricité qui soient des productions d'électricité verte. Mais c'est notre intérêt à nous, Européens ou à nous, Occidentaux, d'avoir un développement industriel de l'Afrique qui soit évidemment un développement non polluant.
Luc Ferry, IA, grand remplacement ou complémentarité, aux éditions de l'Observatoire. Merci.
Merci à vous, surtout, c'est très gentil à vous.
Une interview menée par Marina Mielzarek.
RFI Midi.
Cap sur Angoulême, dans le sud-ouest de la France. C'est le 52e festival international dédié à la bande dessinée. Les lecteurs peuvent y rencontrer des auteurs, se faire dédicacer des livres, assister à des conférences ou encore visiter des expositions organisées pour l'occasion. Notre envoyée spéciale Sophie Torlotin est allée visiter Hyper BD, l'exposition dont vous êtes les héros et les héroïnes. Les visiteurs sont appelés à se mettre dans la peau d'un auteur de BD.
Ça démarre sur une table de dessin. Et puis il y a plusieurs choix possibles, comme les livres dont vous êtes le héros.
Émilie Plateau, qui a raconté avec humour son expérience d'autrice de bande dessinée dans son livre « L'épopée infernale », récidive à grande échelle en concevant le parcours sinueux et à choix multiples de cette exposition.
Soit on envoie son projet, on est publié, ça c'est Adrienne Tominet, sinon on doute, on hésite, ou alors on fait du fanzine, on tente le concours Jeune Talent, on passe par une école... Parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire de la bande dessinée. Voilà, je voulais englober tout ça.
Sur votre chemin, attention aux choses trappes. Il pourra vous arriver d'errer dans la forêt du doute ou de vous retrouver au bord de la falaise maléfique. Émilie Plateau met en avant la diversité des parcours et celles et ceux, par exemple, qui se sont fait connaître grâce à des dessins sur les réseaux sociaux.
Instagram, c'est le nouveau blog. Après, je ne sais pas trop ce que ça va donner puisqu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices maintenant qui veulent quitter Instagram après tout ce que Mark Zuckerberg a dit d'horrible. Bah, je sais pas, ça va peut-être faire un renouveau encore dans la manière de diffuser son travail, on verra bien.
À un autre endroit, des jeunes découvrent un Minitel.
En fait, si, ça marche pas, j'ai l'impression.
Vous savez ce que c'est?
Non, je sais pas. Non, j'ai jamais vu.
Comme un pied de nez aux nouvelles technologies, un auteur utilise ce terminal français ancêtre d'Internet.
C'est un auteur qui est publié chez Super Loto qui s'appelle Bingo et qui a fait une bande dessinée par l'outil Minitel. C'est un système de taper sur un clavier et le dessin se fait par ligne.
C'est là où ta fille est.
Votre quête s'achève si vous arrivez au numéro 21, la publication.
Le Graal, c'est évidemment de publier une bande dessinée.
Devant un livre géant, le visiteur peut appuyer sur une pédale.
Moi, ma BD. Et quand on appuie dessus, eh ben ça fait « waouh ».
Ce qui aurait été génial, c'est qu'il y ait une fontaine de champagne et puis des petits confettis qui tombent à chaque fois en or ou des dollars peut-être, je sais pas. En fait, on se met devant la bande dessinée, donc le gros livre, et il y a une pédale sur laquelle on appuie et il y a une lumière qui s'allume. Et attention, c'est une trappe, donc on peut tomber dans la fosse au dragon et se faire manger, mais il faut déjouer les pièges pour cette expo.
Une chose est sûre, il vous faut bien plusieurs tentatives pour passer par toutes les salles et arriver au bout de cette exposition dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Sophie Torlotin, Angoulême, RFI.
Jusqu'au 16 février prochain, votez pour l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Le choix du public sera pris en compte lors du grand jury présidé par Angélique Kidjo qui proclamera le lauréat de cette année. Découvrez et écoutez les 10 candidats finalistes sur le site rfi.fr, sur nos réseaux sociaux et sur le site prixdécouverte.com jusqu'au 16 février.